Vous êtes sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Les défis de la parentalité.
Les défis de la parentalité, épisode 5. Après les écrans, l'alimentation, la gestion des émotions et des sujets difficiles, place dans cet épisode à la question de l'orientation scolaire et de l'avenir de nos enfants. Comment préparer l'avenir professionnel de nos enfants? Le choix de son orientation scolaire et professionnelle n'est pas une chose facile à appréhender pour les adolescents et leurs parents. La question se pose à plusieurs moments de notre parcours scolaire, du passage de la troisième à la seconde ou bien à la fin de la terminale. Et si pour certains, l'avenir est déjà tout tracé, pour d'autres, c'est parfois le blackout total. Alors comment, en tant que parents, peut-on accompagner nos enfants vers le chemin de la réflexion? Nous avons posé la question à Clémence Nommé, psychologue spécialisée dans la parentalité et l'orientation, avec plusieurs cas de figure et notamment celui-ci. Et si mon enfant n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut faire plus tard? Écoutez Clémence Nommé.
Faut être à l'écoute, montrer qu'on s'y intéresse, parce que parfois il y a certains parents, justement, ils ont tellement peur de projeter et de faire les choix à la place de leur enfant, ils vont dire alors là, je sais pas du tout, je te vois dans rien de particulier, j'en sais rien, et ça peut angoisser pas mal l'enfant en se disant bah mince, en fait il y a rien qui me correspond, mais pourquoi il trouve que rien m'irait, et du coup voilà, faut être dans un équilibre un petit peu, en faisant des propositions, en donnant des idées, en restant ouvert aux idées aussi de l'enfant, être dans un échange, dans un partage, donc pas mettre de pression, mais montrer qu'on est intéressé et qu'on se questionne aussi.
Le dialogue est donc le maître mot, selon Clémence Nommé, mais attention toutefois à ne pas tomber dans le harcèlement, l'idée n'est pas d'en faire une obsession.
Ce qui est important déjà, faut pas braquer effectivement le jeune avec des questions incessantes, c'est plutôt montrer qu'on est là, on est à l'écoute, et puis proposer peut-être tiens, j'ai vu qu'il y avait un salon là de l'orientation, ça te dit qu'on aille ensemble y faire un tour. Et après, je dirais que le salon, c'est un peu le premier pas. L'intérêt du salon, c'est plus de retenir les petites choses qui ont commencé à intéresser finalement le jeune, et après de pousser vraiment vers les portes ouvertes spécifiques de la formation pour qu'il aille dans le lieu, qu'il voit les autres étudiants, qu'il discute avec des jeunes, finalement avec des jeunes avec qui il pourra échanger plus facilement et se sentir plus à l'aise peut-être qu'avec ses parents, qu'il aille voilà à la rencontre d'un établissement pour aussi sentir une ambiance et avoir un ressenti lui en sortant, est-ce que je m'y suis senti bien, est-ce que je m'y suis projeté ou est-ce que ça ne me correspond pas.
Les parents sont également invités à se tourner vers des équipes éducatives ou bien vers un proche avec qui le jeune se livre plus facilement. Et autre cas de figure, et si mon enfant choisit une voie professionnelle utopique? Devenir acteur, footballeur ou même influenceur, vos enfants ne seront pas les premiers et les derniers à nourrir ses rêves. Mais pas de panique, une fois encore, tout est dans le dialogue.
C'est de questionner le pourquoi, qu'est-ce qui l'intéresse dedans. Et puis, on peut creuser peut-être des métiers qui pourrait y avoir autour, qui peut permettre au fil de temps de voir si peut-être ça serait possible dans l'avenir, mais de choisir une voie qui va lui permettre de rester ouvert, de pas se fermer de porte, pour lui faire prendre conscience qu'on n'est jamais sûr finalement sur ces filières-là, parce qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, et donc qu'il vaut mieux s'ouvrir à d'autres horizons. Et puis qu'en plus, il y a tellement une multitude de métiers, de possibilités, c'est d'essayer de leur ouvrir, en fait, sur d'autres horizons.
Écoutez, échanger, respecter et encourager, voilà donc les clés pour aborder la question de l'orientation scolaire sereinement, peut-être aussi en s'y prenant plus tôt. Inutile d'attendre que ce soit l'heure de faire ses vœux sur Parcoursup pour s'y intéresser. Et pour rappel justement, Parcoursup, les terminales ont jusqu'au 3 juillet pour classer leurs vœux sur Parcoursup et jusqu'au 7 juillet pour accepter une proposition d'admission. C'est la fin de ce dossier sur les défis de la parentalité. Vous retrouvez évidemment tous nos épisodes en intégralité sur notre site internet en podcast. Très bonne écoute à tous.
This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey.
surviving. All the red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no holding. Come take it to the floor.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
And
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now. Take it to the flow now.
Oops.
Splash. To the flow now.
If I cannot dance with you, baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, boots,
sologenic, photogenic, shoot.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Mike du compte Instagram, les secrets Disney sur TikTok. Alors, le problème, je vais te dire ce que c'est. Mm-hmm. C'est que je sais pas comment on va faire pour te libérer avant la fin de la journée.
Ah, il y a trop de choses à dire sur Disneyland Paris. 50
000 ouais. questions sur Disneyland Paris.
Tu vois, ça dans l'habitude.
Je suis trop content de te recevoir. Il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent sur TikTok pour savoir un petit peu tous les secrets du parc Disneyland Paris, les bons plans, les astuces, les nouveautés. Je sais qu'il y a notamment le parc sur la Reine des Neiges qui va pas tarder à ouvrir.
Ouais.
Il y a l'Avengers Campus qui vient d'ouvrir. Lui, les bons plans pour aller à Disney pour pas trop cher. Tiens, d'ailleurs, comment ça se fait? Comment tu as eu envie de te lancer sur TikTok?
L'ancien travail que j'avais, je travaillais dans une boutique déjà, mais j'avais une option. J'étais ouais. guide dans le parc. Et on a eu le confinement, un petit moment de off, on va pas se mentir, c'était très très long. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de me balader avec les gens dans le parc, de leur expliquer comment ça marche, les attractions, les histoires, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui peut partager la passion que j'ai de base et surtout donner un côté accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, le souci que je trouvais des vidéos à l'époque de tout ce qui était Disney, tout ça, c'est que c'était trop complexe. Et je me suis dit, je veux toucher une majorité de personnes qui n'y vont pas forcément tous les jours et qui ne sont pas ultra fans de Disney et parler plus simplement avec les gens. Voilà.
Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. Maud, je sais pas combien de fois tu y as été.
Oh, 3-4 fois aussi, ouais.
Je pensais connaître pas mal de choses sur le parc, hein, déjà, ouais. Vraiment. J'avais pas mal de petites astuces et ça. Mais alors, sur ton compte Instagram, j'ai appris vraiment des trucs de fou, machin. les secrets qu'il y a dans la tour de la terreur, la petite fille qui peut te parler, c'est un truc de fou. Tu bosses chez Disney depuis 2015, ça va faire donc 7 ans, ouais. Bientôt, au mois de mai, il me semble.
Au mois de mai, ouais.
Moi, tu bosses chez Disney, j'ai envie de bosser chez Disney. Comment ça se passe? Comment on se fait embaucher à Disneyland Paris?
Eh ben, écoute, déjà, il faut aller sur le site Disneyland Careers. En fait, t'as My Disney Careers, tu vas dessus, tu peux postuler directement. Alors, quelquefois, ils font des sessions. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelquefois, ils font des sessions de recrutement dans des villes bien particulières. Ils proposent, par exemple, une session à Paris ou à l'étranger, possiblement. Là, tu fais un entretien. Alors moi, à l'époque où je suis passé, c'était en binôme. Je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque, on passait ensemble. Et bah, t'as une petite session, on te pose des questions. On te pose des questions un peu comme dans tous les entretiens.
Est-ce que c'est obligatoire de parler plusieurs langues?
C'est pas obligatoire, mais...
Vivement recommandé.
Bah, ça dépend, ouais. Ça dépend, en fait, ça dépend quel boulot tu fais. Si tu travailles, on va dire, en backstage, où tu n'as pas forcément besoin de communiquer avec un métier, où t'as pas besoin de parler plusieurs langues, ça peut passer. Après, c'est... pas obligatoire de travailler on stage et de parler plusieurs langues, mais c'est quand même fortement recommandé, on va dire.
Et est-ce que c'est obligatoire d'aimer Mickey, du coup?
Ouais, bah, moi, c'est mon boss, je l'aime bien. C'est mon pote. Il est sympa.
Je voulais qu'on revienne là-dessus, tiens. Disney, c'est souvent très cher. On va pas se mentir, hein. Ça coûte quand même assez cher pour prendre sa place. Encore plus quand tu veux y aller en famille.
Ouais.
C'est quoi, toi, tes bons plans pour payer son entrée moins chère à Disney, manger avec un petit budget là-bas, sur place?
Alors, en fait, t'as plusieurs possibilités. Ce qui est, sur le site directement, sur le site de Disney, tu peux regarder les différents tarifs proposés, par exemple au billet un jour un parc, tu peux trouver le prix et t'as des codes couleurs. Le vert, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est le moins cher. Alors évidemment, quand t'arrives dans des grandes périodes comme Noël, tout ça, tu risques de pas trouver ce genre de promotion, mais hors saison, janvier, février par exemple, tu peux trouver des tarifs très intéressants pour le parc. Tout ce qui est au niveau de la consommation, donc pour manger, tu peux, avec un budget, on va dire, entre 15 et 20 euros, trouver un fast-food qui est l'équivalent de ce que tu peux avoir partout, hein, à l'extérieur du parc. Moi, je dirais, le plus simple aussi, c'est de potentiellement anticiper d'aller manger soit plus tôt, soit plus tard, en dehors des horaires où les gens mangent, donc c'est-à-dire éviter midi, quoi, histoire qu'il n'y ait pas 300 000 personnes qui attendent pour manger un burger. Mais oui, si tu peux essayer de limiter ta consommation et ta dépense sur la journée si tu gères bien et tu anticipes ta venue. Ouais.
Alors justement, tu le disais, beaucoup de monde pour manger, beaucoup de monde dans le parc aussi.
En général, ouais.
Comment on fait? C'est quel moment de l'année où on peut venir, où il y a pas trop de monde, on va dire?
Bah, comme je disais tout à l'heure, hors saison, je pense que janvier, février, c'est peut-être un peu plus calme. Alors, il faut prendre en compte que si tu viens avec ta famille et que tu veux voir, par exemple, tout ce qui est spectacle de Noël, tout ça, bah, évidemment, tu vas vouloir venir pendant les vacances, pendant la magie.
Pendant la foule.
Pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Donc, du coup, évidemment, t'auras toujours un peu plus de monde à ce moment-là, mais t'auras une offre qui sera différente que celle que tu pourras avoir en début d'année, par exemple. Par contre, je pense que le mieux, c'est, imaginons que t'es un groupe d'adolescents, tu veux venir juste faire des gros coasters, des choses comme ça, vraiment t'amuser, attraction, pas de spectacle. Dans ce cas-là, si t'as un petit budget, que t'es une bande de potes, eh ben, le début de l'année, ou les périodes froides, ou les périodes où il fait pas mal de pluie, et en semaine.
Quand tu dis pas trop d'attente aux attractions, c'est combien de temps?
Bah, ça dépend ce que tu veux faire comme attraction. En fait, si tu sélectionnes, bon, imaginons que tu veuilles faire des coasters, comme je disais tout à l'heure, bah, tu peux tomber sur du 15-20 minutes sur...
Oh, ça va.
Oui, non, c'est plus que raisonnable.
C'est plus que raisonnable. Hein. J'ai attendu 100 minutes à une attraction à Disney.
Ouais, ouais, je...
ouais, c'est normal. Ouais. 100 minutes, c'est pas mal.
On dit victime de son succès.
Et le monde de Nemo, typiquement, ça peut être combien de temps
Je sais pas. Je pense que le plus rapide que j'ai pu voir, ça doit être soit entre 20 et 30 minutes grand max.
Ah ouais, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est du 70 minutes en journée, des trucs comme ça.
C'est un certain temps.
Le monde de Nemo, juste pour mettre...
Attends, mais juste, on peut pas attendre moins de 20 minutes. Ça n'arrive jamais.
Bon, il y a certainement des moments dans l'année où oui, tu peux attendre moins de 20 minutes, mais là, je te donne à peu près une moyenne, quoi, on va dire.
D'ailleurs, l'attraction Le monde de Nemo, qui est donc dans le parc Disneyland Studio.
Oui.
Qui est l'attraction la plus traître du monde. À savoir que tu arrives devant, tu dis ok, bon, c'est tout mignon, machin, c'est le monde de Nemo, ça va être sympa.
Ouais.
Pas du tout. Vraiment pas du tout.
En fait, il y a un petit repère qui est super intéressant. C'est à l'entrée de l'attraction, si tu regardes sur la gauche, t'as une petite figurine d'une tortue qui est en train de tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est exactement ce que tu vas faire dans l'attraction.
Oui, enfin, ça, faut le savoir.
Sauf que personne ne le voit.
Faut le savoir que ça représente l'attraction, ça.
Clairement.
On voulait absolument parler avec toi, Mike, de l'ouverture du nouveau parc, la nouvelle partie du parc sur la Reine des Neiges.
Ouais.
Alors, ça sera, si je dis pas de bêtises, côté Disneyland Studio.
C'est ça, ouais.
Un petit peu plus loin que Disneyland Studio. C'est le prolongement du parc.
Exactement.
En gros.
C'est ça, c'est un prolongement du parc. Ouais.
Est-ce que ce sera le même parc? Moi, c'est ça que je voulais savoir, ou c'est un parc à part?
Non, ce sera le même parc. Ça fait partie des Walt Disney Studios.
Ah, ok.
Donc, à l'instar de ce qui a été fait pour l'Avengers Campus, finalement.
Exactement, ouais, en gros, c'est un prolongement. Il va y avoir un agrandissement, ça va popper.
Alors, je sais qu'on peut pas dire trop de choses.
Je peux pas dire trop de choses.
Mais j'imagine que ça va être immense. J'ai cru voir des articles passer sur internet comme quoi ça va être très très grand.
Je pense que ça va être impressionnant.
Il y a un lac.
Il y a un lac.
On peut le dire.
Ça, on peut le dire.
Il y a un château.
Il y a un château.
Château de la Reine des Neiges.
On peut pas le dire.
Ah, on peut pas le dire. Okay.
Oui.
Bon, écoute, ça semble un petit peu évident
en
quand
vrai,
même.
Je crois qu'on voit les travaux. Alors, peut-être que tu pourras pas me confirmer, mais de ce que j'ai compris, dans Walt Disney Studios, t'as une espèce d'attraction à côté de la tour de la terreur des parachutes. Ouais. Et quand t'es en haut des parachutes, tu vois les travaux qui ont commencé.
Ouais, si t'as des bons yeux, c'est moi qui l'ai dit.
Et je vais vous faire une petite confidence aussi. Les travaux en ce moment, ils sont fermés par des palissades en bois, c'est ça, hein? Ouais, je dis pas de bêtises. J'ai voulu voir, tu sais, par les interstices en bois, quoi, ça allait ressembler. Bon, c'est vraiment au stade de travaux en ce moment, donc vraiment.
Ouais, en fait,
y a vraiment pas grand chose.
Y a pas d'intérêt, essayer de regarder. Le mieux, ce sera quand ce sera ouvert, ce sera super magique. Avant, y a pas d'intérêt.
Et là, je suis trop pressé aussi de retourner à Disney pour aller faire le nouveau Avengers Campus qui vient d'ouvrir côté, pareil, un Disney Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Moi, je sais pas du tout, j'y suis jamais là encore.
Ok, bah, t'as deux nouvelles attractions.
Okay.
Web, qui est une attraction. En gros, tu es dans un, pour simplifier, t'es dans une cabine qui bouge un petit peu, qui se déplace, un peu comme si t'avais fait Ratatouille déjà.
Okay, ouais.
Donc si tu es dans le noir, t'as une cabine avec des lunettes aussi qui te permettent de voir des effets de relief. Et t'as des capteurs tout autour de la machine où tu te situes qui te permettent, en faisant le signe connu de Spider-Man, là, plier ses doigts, de tirer sur des cibles, des robots,
okay.
des Spider-Bots, des petites araignées qui t'attaquent parce que selon l'histoire, en gros, elles se démultiplient à un niveau exponentiel et du coup, il faut aider Spider-Man à arrêter cette invasion.
D'accord. Ça me fait un petit peu penser à l'attraction sur Buzz l'éclair aussi,
oui,
où tu te déplaces dans une espèce de petite navette, faut que tu tires sur des cibles.
Ouais,
et là, avec plus d'effets, de ce que je comprends, t'as des trucs 3D et puis tu lances comme des toiles d'araignée.
Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une attraction. Alors, ils ont refait Rock'n'Roller Coaster sur Iron Man, c'est ça?
Flight Force, ouais, exactement.
À savoir que Rock'n'Roller Coaster, c'était l'attraction avec le plus de sensations de toutes les attractions Disneyland Paris.
C'est toujours la même chose pour Flight Force, hein,
pas de démarrage et
tout. Ben, t'as des changements au niveau du thème. Par contre, alors vraiment, il faut rentrer dans le bâtiment de Friday, qui est magnifique, vraiment, qui est réellement magnifique. La file d'attente, tout ça a changé. L'attraction en elle-même, donc je parle du ride, le ride en lui-même n'a pas changé. Par contre, tout le thème, c'est une rethématisation globale, en fait.
Il y avait un truc trop bien aussi avant dans cette attraction-là, c'est que t'avais des grosses enceintes qui mettaient du Iron Maiden, je crois, non?
Non, Aerosmith.
Aerosmith pour n'importe quoi.
Ah oui, le thème de l'attraction.
Il y a toujours de la musique à fond pendant l'attraction.
Alors t'as toujours les enceintes, par contre t'as plus la musique. T'as plus de métal ou de rock. Maintenant c'est en gros tu as l'histoire qui continue le temps de ton périple, on va dire, et qui t'explique ce qui se passe.
Mike, je pense que c'est le moment d'ouvrir la rubrique de cette émission qu'on va appeler la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire des questions qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Mike du compte Instagram Les Secrets de M, qui connaît absolument tous les secrets de Disneyland Paris. Alors on démarre avec cette question. J'ai un jour dans le parc à Disney ou Disney Studio, ou peut-être même les deux. J'ai pas allumé ton micro.
Ok, c'est mieux.
Qu'est-ce que je dois absolument faire comme attraction?
Tout dépend. Là on parle de toi.
On parle de quelqu'un qui adore faire les manèges dans tous les sens, et ceux qui sont un peu plus soft avec des enfants.
Ok, donc deux catégories. Si tu veux vraiment partir en famille et voir tout ce qui est spectacle, imaginons que t'as des enfants en bas âge et qui vont jusqu'à, on va les dire, 10 ans par exemple.
Ok.
Fantasyland, je pense que c'est le bon démarrage, même s'il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'évidemment les familles viennent très tôt, parce que les enfants en tiennent moins dans la journée, ce qui est logique.
Rappelle-nous, Fantasyland, c'est quelle partie du parc, ça?
Les châteaux.
Après le château, effectivement, c'est ça.
D'accord, là où il y a Peter Pan, Pinocchio,
exactement.
Etc. Okay.
Ouais. Toute cette partie-là, tu peux le faire, parce que globalement, les attractions sont faites pour les enfants, avec une petite exception pour Blanche-Neige et les Sept Nains.
Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est marrant que t'en parles.
Ah ouais, alors cette attraction-là, on l'a fait beaucoup avec nos guests, nos invités. Quelques parties de cette attraction peuvent potentiellement faire peur aux plus jeunes. Mmh,
mmh. Alors c'est marrant parce que
je la connais pas du tout, moi, cette attraction. Je vois même pas où elle est.
Je crois que t'es assez grande, t'auras pas peur.
Okay.
Je me permets de rebondir dessus parce qu'en fait j'y suis allé à Disneyland un jour quand j'étais très petit avec mes parents, et j'ai un très net souvenir de cette attraction qui m'avait fait très peur. Il y a une partie en fait où tu passes avec un wagon dans une espèce de forêt.
C'est ce passage-là.
Une forêt hantée. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand j'étais tout petit.
Ah, mais il y a des gens qui crient ou...
Non, du tout. Bon, nous, à notre âge, pas du tout, ça va pas du tout nous faire peur. C'est juste qu'en fait, ça peut être impressionnant pour les gamins parce que t'as vraiment des arbres hantés, machin, qui
foncent
un peu dans le noir, avec des gros yeux. Bah, tu sais, comme une forêt dans le noir la nuit, donc ça peut être un peu flippant. Mais ça reste pas mal à faire en famille. Bon,
tout dépend. En fait, je pense que tu dois prendre un peu la température, on va dire, avec les enfants. Si tu vois qu'ils sont assez OK de voir un peu d'horreur, je mets des grosses guillemets à horreur. Mais du coup, s'ils ont pas vraiment peur, tu peux les envoyer dans Blanchetage des 7 nains. Mais si tu vois qu'ils sont un peu plus craintifs, évidemment, mieux vaut éviter. Moi, je pense que c'est le genre d'attraction que je conseillerais pas avant au moins 6 ans. Si tes enfants ont encore un peu d'énergie, bah, tu peux faire un tour sur les studios. Il y a quelques attractions qui sont faites pour eux aussi, hein, mm-hmm. qui sont intéressantes. Tu peux faire Ratatouille, par exemple, pareil, avec aussi une petite retenue si les enfants ont un peu peur du noir, tout ça, mais c'est une attraction qui passe généralement bien. Et par contre, si on prend tout à fait l'inverse, un groupe d'adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes qui veulent vraiment faire de l'attraction pure et dure, bah du coup parc principal Space Mountain, alors Big Thunder Mountain que tout le monde appelle le train de la mine,
ouais,
voilà,
qui fait énormément de bruit d'ailleurs,
qui fait pas mal de bruit, ouais. Bon après c'est censé être un train un peu fou de mine, hein, donc ouais. c'est un peu le but. Mais ouais, donc tu peux faire le train de la mine, partir sur les studios. Sur les studios, il y a des attractions comme la Tour de la Terreur qui sont incroyables, que ce soit au niveau sensation ou au niveau storytelling, l'histoire est géniale.
Ouais.
Et après t'as RC Racer, c'est la voiture en halfpipe là qui fait des allers-retours.
Oui, voilà. Oui, qui fait allers-retours un peu comme un bateau pirate.
Oui, plus ou moins. Ouais. C'est encore la seule attraction aujourd'hui, malgré qu'on ait fait, je sais pas, 300 millions de fois chaque attraction, qui me fait encore de l'effet réellement.
Ça c'est fou. Et alors, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente à Disney. Stratégiquement, si j'ai envie de faire le plus d'attractions possible sur une journée avec les temps d'attente qu'on connaît, mm-hmm. il faut que je fasse quoi? Comment je fais? C'est quoi ton plan d'action?
Moi, je partirais sur le fait dès le matin, la majorité des gens s'imaginent que partir sur les studios et passer la moitié de la journée, c'est un bon plan parce que le parc est plus petit, parce qu'ils auront plus de temps l'après-midi, tout ça. Tout le monde pense comme ça. Donc, je dirais, commencer par le parc principal, c'est mieux que de commencer par les studios. Ensuite, tu restes, quand tu vas dans un land, tu sélectionnes où tu veux aller. Si tu veux aller faire Discoveryland et que tu as envie de faire Space Mountain, Buzz, Star Tours par exemple, et ben du coup tu vas dans ce land et tu y restes. Même si tu as une heure d'attente sur une attraction, parce qu'en fait, je pense que les gens perdent plus de temps à partir de, bah, comme par exemple Space Mountain, à changer de parc, aller sur Ratatouille par exemple, et revenir plus tard sur le train de la mine, tout ça. Tu perds plus de temps à te balader dans le parc que si tu restes stratégique et que tu attends un petit peu plus longtemps, quoi.
Eh, tu fais bien de le dire, parce que moi, c'est typiquement le genre de truc que je fais, à savoir, je vais d'un bout à l'autre du parc, je perds du temps. Bah ouais, en plus de ça, t'es claqué à la fin de la journée.
Bien sûr.
Donc, par zone géographique, on fait tout par zone géographique,
ouais,
et on épuise le truc comme ça.
Pour moi, en tout cas, l'ayant pratiqué plusieurs fois, je pense que c'est ce qui est le plus rentable dans ta journée, en tout cas.
Et puis, alors, la question qui est la question débat que je me pose depuis, je sais pas combien d'années avec mes parents, avec mes potes. Tu veux avoir le plus de sensations dans un manège, tu te mets tout à l'avant ou tout à l'arrière?
Alors, ça dépend l'attraction.
Comment ça ça dépend l'attraction?
Ça dépend ce que tu veux faire. Alors, imaginons, pour moi, je dirais que la majorité du temps, si tu te mets à l'arrière des attractions rapides, des coasters, t'auras un peu plus de sensations, parce qu'évidemment, comme c'est une sorte d'énergie, disons que t'as une poussée, et ben tu prendras toujours plus de vitesse à l'arrière qu'à l'avant. Mais par exemple dans Flight Force, l'attraction de campus que je disais tout à l'heure,
le roller coaster avant,
voilà, okay. L'ancien Aerosmith, et ben je te dirais mets-toi à l'avant, non pas pour les sensations, mais je pense que t'as plus la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour de toi, donc tout ce qui est décor, tout ça.
Ouais.
Donc je te dirais une fois pour les sensations à l'arrière, une fois à l'avant pour le thème et la magie.
Et ceux qui ont un peu peur, c'est au milieu.
C'est vous sortez et vous allez faire It's a Small World à la Maison des Poupées. C'est très très bien.
D'ailleurs, la Maison des Poupées, ça a réouvert ou pas encore?
Pas encore. Ça, alors, j'ai pas la date de la réouverture, mais c'est pas encore.
Ok.
Salut, c'est Julien Doré sur Vibration.
Salut, c'est Amir.
Just a relief, but...
Salut, c'est Slimane sur Vibration.
Avec Vibration et vos artistes préférés, vibrez avec nous.
Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes.
C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond deux. Et si tu me dis que tu m'aimes,
je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien.
Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh baby, I love.
Je vais casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter. Oh. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh, pourquoi j'ai
suis blessé. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh, c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer.
Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes.
C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes,
je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux.
Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love.
Laisse-moi guérir tous tes bobos, ma chérie. Je ne veux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire.
Allez, donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux.
Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you, baby.
Sur Vibration avec moi. Une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Les défis de la parentalité.
Épisode 4. Aujourd'hui, on aimerait laisser nos enfants jouer, s'amuser, ne se soucier de rien. Pourtant, parfois, la vie prend une tournure plus grave. Maladie, décès, séparation, guerre. Comment évoquer ces sujets avec eux? Quels mots choisir? Jusqu'où peut-on aller? On en discute avec Fabienne Cochère, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Il faut bien comprendre que les enfants, ils perçoivent beaucoup de choses et que ils sont beaucoup plus sensibles au langage émotionnel qu'au langage en lui-même, hein, et que la compréhension des émotions précède la compréhension du langage. Hein. Le bébé, c'est un être d'interaction. Hein. Donc très tôt, si par exemple une maman ne va pas bien et qu'elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce que il peut pas engager de relation. Donc très tôt, les enfants, comme ce sont le petit humain, c'est un être de communication. Donc en fait, ils ne cherchent que ça. Hein. Ils ne cherchent que la communication. Donc très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile, hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce que il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie, parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement, et souvent je leur dis, oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que c'est on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux, et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien, et mais que il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il faut pas tout leur dire aux enfants non plus, c'est-à-dire que comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais que elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire que faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. On est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt, et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans du... Vous êtes pas souriant, là ça va prendre beaucoup beaucoup de valeur pour l'enfant. Ils sont très, c'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage. C'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez, où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses, et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes. Très tôt, les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est, en fait, c'est multimodal. C'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit, oui, aujourd'hui maman arrive plus tard, tout ça c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui d'un côté pourrait être très stressante parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes les mamans et que lui il est toujours là, si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, il va avoir appris que maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, ben on en a beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? De toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on pouvait plus sortir, on pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel, et puis que on est, on grandit, on devient adulte, et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, c'est sûr que ça risque d'être compliqué, et puis, lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être, ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent, les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques, alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors, souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent, ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça. Et un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si, par exemple, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste, mais... Il y a quand même une génération, il y a la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. Je crois qu'il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent non, on va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. C'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, hein, encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Hein, quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Il va presque dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. Là aussi, être franc avec l'enfant, et surtout, éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples. Si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparés. C'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher. Et il ne faut pas le mettre au cœur de conflits. Faut éviter les conflits de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies. On a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. S'il se passe quelque chose à l'école, alors vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats. Ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. C'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler, il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école, il va forcément en entendre parler par les copains, il y en a qui ont... à ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on ne va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans, sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cochère. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast. Vibration.
Got a little close, yeah. She was just my type, million dollar smile. I'm convinced she knows. Never leave ya.
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble nos podcasts. Comme celui-ci.
Émission spéciale avec Jérémy Frérot aujourd'hui.
À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter à la vie qu'on mène.
Ça fait plaisir de te voir.
Bah, je suis très content d'être avec vous.
Depuis des mois et des mois, on kiffe sur tes tubes, on a chanté Un homme, bah, le nouveau, La vie qu'on mène aussi. Et puis un qu'on aime beaucoup avec Lucas qui s'appelle Fais-le, dont on parlera un petit peu. Alors Jérémy, on va jouer ensemble tout à l'heure.
Ouais. Avec
donc juste avant, on va démarrer avec quelques questions. Lucas en a, moi aussi, oui. On va démarrer avec Lucas, qui est journaliste et beau gosse aussi, bien sûr.
Ça se dit, effectivement. Deuxième album, donc Meilleure Vie, qui est une ode à l'authenticité, à la vie que tu mènes, tout simplement, comme le dit l'un de tes titres. C'est un sujet important, ça, pour toi, le fait d'être simple, d'être authentique.
Ouais, carrément, d'être vrai, de pouvoir dire les choses simplement et de les vivre aussi, finalement, parce que quand on dit les choses simples, bah on les vit simplement aussi et ça fait du bien, ça fait passer du bon temps dans la vie, et c'est ça que je...
Et en étant artiste, c'est peut-être moins évident aussi.
Ouais, c'est très très dur.
Ah ouais,
je le dis, mais c'est hyper dur en fait.
Pourquoi c'est dur?
Bah parce que c'est dur de vivre simplement. Il y a les gens tout autour. Hier j'étais à un concert, bah je pouvais pas vivre le concert pleinement.
Tu peux pas avoir de vie normale en fait, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc j'essaie de la vivre le plus normalement possible, d'être le plus normal avec les gens aussi. Pour l'instant, j'arrive à m'en sortir.
Je pense que ça arrive plutôt bien, ça va. on dit souvent que le deuxième album c'est le plus compliqué à faire. Hein. Souvent c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça a été le cas pour toi?
Non, pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé ma voix avec celui-là et du coup, je me suis senti hyper bien de le faire. En plus, j'étais chez moi enfermé. J'étais obligé d'être enfermé, donc obligé de me concentrer sur quelque chose. Et ça a été ça. Ça a été des écritures de chansons, les compos. Et puis, non, ça a vraiment pas été dur. Je pense que ça va peut-être être le prochain qui sera un peu plus dur justement, parce que vu que j'ai trouvé ma voix, il va falloir maintenant que je signe. Et c'est peut-être là le crochet.
Tu le disais, tu l'as écrit chez toi l'album, puisque c'était pendant le confinement. Du coup, est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné envie d'aller sur des notes un peu plus positives que sur le premier album? C'est vrai, il y a quand même beaucoup de joie finalement dans ce second album.
Bah c'est surtout parce que j'avais envie de chanter du positif sur scène. Ouais. J'avais envie d'être comme ça. Sur la première, c'était un peu plus mélancolique, plus froid, et finalement, bah, je l'ai chanté quand même avec du soleil sur scène. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi forcer
la
chose?
Ça va pas avec, quoi.
En fait, non.
On est quelques mois, quelques années maintenant après le confinement. T'as pas pris un kilo? Comment t'as fait? Parce que globalement, alors bon, j'avais déjà bien commencé le travail, mais le confinement a fini. Beau gosse, nickel. En plus, double papa, mais pas de poids en plus. C'est incroyable, ça. Comment t'as fait?
Bah, j'ai pris, j'ai reperdu. J'ai repris.
Voilà.
Non, j'ai pris quelques kilos à la sortie du confinement. C'est ma mère qui m'a vu jouer à la pétanque torse nu et qui m'a dit, dis donc.
dit, merde,
ça se voit là.
Ton album Meilleure Vie est sorti en 2021. La réédition, du coup, avec 4 titres inédits, est sortie en janvier dernier. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller aussi vite sur cette réédition?
Bah, j'avais le choix entre partir sur un nouvel album ou continuer avec cet album-là pour aller jouer sur scène, parce que vu qu'il est sorti pendant le tout ce merdier, bah j'ai pas pu jouer. Et moi, je fais ce métier vraiment pour jouer. Le studio me plaît pas forcément. J'aime monter sur scène pour voir l'émotion qu'on peut tirer des gens avec les chansons qu'on chante.
Là, l'objectif, c'est d'aller le défendre vraiment sur scène, du coup, cet album.
Ouais. Donc, bah à force d'écrire d'autres chansons, on s'est dit, bah on fait une réédition et comme ça, on peut jouer avec cet album.
Et du coup, est-ce que tu iras aussi vite pour le troisième album?
Oui.
Ouais. Ah ouais, quand même.
Je suis déjà dessus.
Il est là.
Ah ouais. Déjà. Et il va arriver très vite, je pense.
Ah ouais.
Ouais.
Mais du coup, la tournée, alors elle a démarré au mois de mars, etc. Comment tu fais pour allier tournée et écriture du troisième album?
Bah, j'ai ouvert une note,
okay.
album 3, je l'ai pas encore nommé. Je suis en train d'élaborer le concept, les sujets, des tournures de phrases que j'écris. Des petites mélos que j'ai dans la tête que j'enregistre aussi. Et ouais,
ah,
voilà.
Tu fais donc, c'est Angèle qui nous racontait ça. Elle nous disait qu'elle avait son téléphone et que même dans le taxi et tout, elle enregistrait des mélos. Tu fais comme ça aussi, ouais?
Ouais, la dernière, c'était dans l'avion, là.
D'accord. Qui ferait être le voisin de Jérémy Frérot dans l'avion? Tu sais, moi, je le trouve toujours à côté du gars relou ou de l'enfant qui pleure. Bah, non, t'as Jérémy Frérot.
Je pense que je devais être relou parce que c'était en pleine nuit.
Ah.
C'était un avion de nuit et je me suis réveillé. Oh, purée, je l'ai. Et j'ai senté tout doucement à côté. Le mec a dû me regarder chelou. Il parle à son téléphone.
Tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement.
On t'a connu
connu avec Flo de la Vega dans The Voice. Je me doute qu'on a déjà dû te demander d'être coach dans The Voice, mais est-ce que, une fois que t'auras fait plusieurs albums, plein d'albums, etc., que t'auras bourlingué, hein, est-ce que ça t'intéresserait de transmettre ton savoir à de plus jeunes artistes qui, comme toi, aimeraient bien devenir une star de la chanson?
Bah, complètement, ouais, carrément, ça peut être envisageable, ouais, ça peut être fun de pouvoir.
TF1 m'a transmis le contrat, il est.
Alors, vas-y, c'est quoi le nombre de zéros?
Suffisamment.
Moi, c'est surtout pour ça, en fait.
On peut ouvrir un deuxième pestacle, c'est bon. Le principe, il est très simple, j'ai deux thèmes. Un thème à table, un thème sport. Comme t'as fait Staps quand tu étais plus jeune, je me suis dit peut-être que le sport t'intéresserait, ou alors à table. Ça se voit sur moi que à table m'intéresse. Tu veux sport?
Allez, sport. Très bien. À table m'intéresse pas mal. Hein,
on peut changer si tu veux.
Non, sport.
Ok, très bien. Donc je te donne la feuille dessus. Hop, il y a des petits mots qui sont notés. Donc tu dois pas me donner le mot, mais tu dois me le faire deviner en donnant un maximum d'indices. Ok. Et celui qui trouve le plus de mots, pas celui qui en fait deviner, mais celui qui trouve le plus de mots gagne. C'est bon pour toi?
Ok.
Très bien, je mets le chrono, je peux perdre toute virilité à tout moment si je perds. Est-ce que tu veux que je commence à te faire deviner ou l'inverse?
L'inverse.
Ok, donc toi tu me fais deviner les mots qu'il y a sur ta feuille.
Ouais.
Ok, je lance le chrono, c'est
bien
parti.
Sûr. C'est parti, alors c'est une pétanque sur la glace avec des gros galets.
Du curling.
Oui, c'est dans des gros stades aux États-Unis avec une grosse...
Le baseball.
Bac, ouais. C'est le marqueur du Real de Madrid.
Karim Benzema.
C'est le meilleur joueur de tous les temps en tennis.
Federer.
Oui, c'est le meilleur joueur du PSG.
Mbappé.
C'est Mbappé, il est dans quel club?
Il est au PSG.
Le club de chez moi, c'est qui?
C'est les Girondins de Bordeaux.
Oui,
bientôt
le meilleur joueur du monde en rugby.
Antoine Dupont.
Qu'est-ce qu'on fait après?
C'est top, c'est bon. Combien? 8. Alors, bon. Déjà, Lucas, fan d'Ovalie également.
Oui.
Je t'ai vu faire un petit entraînement avec le Stade Toulousain. T'as réalisé le rêve de Lucas. Déjà, je te le dis. C'était cool ou pas?
J'ai réalisé mon rêve aussi. Hein.
Ah putain, ça devait être trop cool. Et maintenant qu'il y a l'UBB, du coup, tu soutiens qui? Parce qu'il y a l'Union Bordeaux-Bègles et
je soutiens
y a
pas d'équipe.
T'as pas envie de te mouiller.
Les équipes du Sud-Ouest, sûrement. Oui. Tu vois, La Rochelle, tout ça. Mais j'adore ce sport en fait. C'est vraiment et tous les joueurs, toutes les équipes. J'aime beaucoup suivre. Ça me plaît énormément.
En plus, maintenant le rugby, on le voit beaucoup à la télé, etc. Cette année notamment. Plus, donc voilà. Bon, ouais. Très bien. T'as vu Antoine Dupont.
Je suis jaloux.
Voilà. Nous savons, Lucas. Nous savons. Bon, c'est à moi de te faire deviner. Alors, c'est de la nourriture. Ça tourne autour du ventre. Voilà.
Allez.
Ce qui est plutôt développé chez moi. On y va. C'est parti. C'est de la pâte à croissant avec du chocolat à l'intérieur.
Une chocolatine.
Alors pas ici.
Un pain au chocolat.
Voilà. C'est un fruit vert qu'on mange souvent en salé. Et on fait du guacamole avec.
De l'avocat.
Ouais, c'est des bonbons qu'on fait griller au...
Béchamel.
Ouais. Ça vient de Bordeaux, c'est...
Des cannelés.
Oui. Purée de pois chiches libanaise.
Houmous.
Ouais. escalope d'une ville italienne.
Escalope milanaise.
Oui, on en trouve dans la mer, il y a des saisons pour les pêcher. Non, c'est très cher et ça fait ça.
Des coquilles Saint-Jacques.
Oui, et combien de points, Lucas? Qui a gagné?
Bah, du coup, toi.
Oh,
c'est à un point.
C'est la première fois que je gagne. C'est la première fois. Alors, Jérémy est premier degré, là. Bah, alors, je te soutiens en tant que mauvais joueur. Si tu veux, on peut partager la victoire.
Non.
Non, parce que c'est encore pire. On est d'accord, hein. Non, l'important, c'est de participer. Non, l'important, c'est de gagner. Bon, Jérémy, je suis content parce qu'après avoir perdu contre Angèle, Juliette Armanet, Ritza,
même
George Ezra, voilà, cette fois-ci, j'ai gagné. Ça me fait grand plaisir. Bon.
Jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle. Fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a parcouru le chemin. On a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps. Mais je
remplis de ton eau sans s'arrêter. Le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare. Je suis l'étranger à ton cœur. Seulement regarde comme on est seul. On a je te hais de tout mon corps, mais je
journée, votre dose de bonne humeur.
Bienvenue sur Vibration.
Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold in my hands pictures of you. Dream of the day you were eating for two. Time.